On peut toujours amener un cheval à la rivière, mais pas le forcer à boire. Les menaces, la coercition psychologique, ou la force brutale sont des moyens de pression amplement utilisés dans ce bas monde. Mais ils donnent des résultats mitigés et seulement pendant un temps limité. Pour commencer, ces forces de violence sont honteuses, puis elles demandent beaucoup d'énergie pour un accomplissement souvent minime. Il n'y a qu'à se rappeler la situation socio-économique des pays du bloc soviétique. La réprimande, les menaces, la carotte et le bâton sont des procédés courants que les parents utilisent pour forcer leurs gosses à faire leurs devoirs et aider à la maison. C'est tellement mieux pour tout le monde quand les enfants comprennent d'eux-mêmes que bien apprendre à l'école, ranger sa chambre, respecter les adultes et tout le reste font partie de leur éducation pour leur propre bien. Alors, ils travaillent sans avoir besoin de supervision car rien ne vaut la motivation personnelle. Oui, mais il est bien difficile d'en arriver là. Et l'apôtre Paul est tout à fait conscient que la plupart des chrétiens se comportent comme des enfants mal éduqués. Alors, quand il enseigne la responsabilité de pourvoir aux besoins des autres, il sait qu'il marche sur des œufs. Je continue à lire dans le chapitre 8 de la seconde épître aux Corinthiens. « Ce n'est pas un ordre que je vous donne. » Mais, en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 8. L'apôtre exhorte les Corinthiens à contribuer généreusement à la collecte en faveur des pauvres de Jérusalem. Il a déjà pris, pour exemple, les chrétiens de Macédoine, la province de la moitié sud de la Grèce. Il sait que le sujet est sensible, ce qui le rend très prudent dans ses propos. En effet, Paul sait que Dieu l'a doté d'une très forte personnalité. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'il fait qu'il craint toujours de dominer les églises qu'il a fondées ou leurs membres. Pour cette raison, et parce que de toute façon, les Corinthiens connaissent leurs devoirs, l'apôtre préfère recommander plutôt que leur ordonner une libéralité généreuse. Il n'est pas en train de lever un impôt obligatoire et préfère de loin que la motivation des Corinthiens ne dépende pas d'une pression extérieure, mais repose sur eux-mêmes, sur leur dévouement intérieur. C'est ce qu'il appelle l'authenticité de votre amour, à son égard, mais surtout envers le Seigneur. Comme les Macédoniens ont manifesté leur amour en ouvrant leur porte-monnaie, indirectement, l'apôtre pose aux Corinthiens la question. Votre Église peut-elle se comparer à celle de Macédoine qui ont contribué bien au-delà du raisonnable? Il attend la réponse. Je continue le texte. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui, qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Il faut remarquer que Paul dit, « Notre Seigneur Jésus-Christ ». L'énoncé complet de son nom donne un accent solennel à son œuvre, et son exemple suffit à imposer le principe suivant. « Ceux qui possèdent doivent pourvoir aux besoins de ceux qui n'ont rien ». La déclaration de Paul résume de façon très concise la bonne nouvelle de l'Évangile. La grâce et la faveur que Dieu nous a faite, la manifestation de l'amour du Christ envers ceux qui ne le méritent pas, ce qui inclut tout le monde. La richesse de Jésus représente toute sa gloire dans le royaume de Dieu de toute l'éternité. Il a quitté la splendeur des cieux pour venir vivre dans la misère de ce monde. L'incarnation constitue un invraisemblable renoncement de sa part. Lui qui était riche, qui possédait toutes choses, s'est fait pauvre, se dépouillant de tout. Aux Philippiens, Paul exprime la même pensée que j'ai déjà citée et que je résume à nouveau. Lui qui, dès l'origine, était la condition divine, s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition de l'esclave. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Philippiens chapitre 2, des versets 6 à 8. Jésus a obéi en tout point à la loi de Dieu, en menant une vie sainte, puis il a pris sur lui la dette de l'humanité pécheresse. Elle a payé en sacrifiant sa vie sainte. L'apôtre utilise le Christ comme exemple suprême de générosité. Les Corinthiens sont appelés à montrer leur gratitude envers leur Seigneur en puisant dans leurs ressources pour venir en aide aux chrétiens de Jérusalem. Je continue le texte. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 10 et 11. Un an plus tôt, les Corinthiens ont appris la misère des croyants de Jérusalem et spontanément, d'eux-mêmes, ils ont alors décidé d'agir. Mais les bons sentiments ne suffisent pas toujours et sont même vains s'ils ne sont pas suivis des faits. Il ne faut pas en rester au vouloir et au commencement. Comme l'exécution du projet a flanché, Paul exhorte les Corinthiens à le remettre sur les rails au plus vite. Je continue. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce qu'on l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. La prompte volonté, la spontanéité est agréable à Dieu. Certains que les Corinthiens répondront favorablement à son appel de fond, Paul leur explique la marche à suivre. Comment participer de manière rationnelle à cette collecte? Le premier principe est de donner en fonction de ses moyens, proportionnellement à la grosseur de ses comptes en banque. Il est possible que dans un élan d'enthousiasme, les Corinthiens aient pris des engagements qu'ils ne peuvent pas tenir. Les exemples de la pauvre veuve de l'Évangile et des Macédoniens qui ont contribué au-delà du possible, littéralement se ruinant, sont des exceptions que Paul ne recommande pas. Je continue. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 13 à 15. Le second principe directeur de la libéralité est celui de l'égalité qui repose sur un modèle divin. En effet, lorsque l'Éternel a nourri avec la manne les Israélites dans le désert, il l'a fait selon les besoins de chacun. Et il s'est arrangé pour que personne ne puisse en accumuler d'avance. Il n'avait aucune envie de voir surgir des capitalistes dans son peuple. Je lis le passage en le compressant. Que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur recommanda « Que personne n'en garde jusqu'à demain matin !» Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers, et cela sentait mauvais. Exode chapitre 16, les versets 16 à 20. Paul demande l'égalité entre chrétiens au nom d'un sentiment que seul l'Esprit de Dieu peut inspirer, et qui serait dénaturé dès qu'on lui ôterait sa liberté. Il ne fait pas usage de son autorité apostolique. Il ne commande pas, mais en appelle à l'amour de Jésus-Christ. L'égalité de l'amour chrétien vient de Dieu, tandis que l'égalité impossible dont rêvaient les hommes n'est que de la convoitise et une autre forme d'injustice. Entre croyants, il ne devrait pas y avoir de gêne d'un côté et de la surabondance de l'autre. L'apôtre ne veut pas que les chrétiens démunis de Palestine soient soulagés en exposant les Corinthiens à la détresse. risquant ainsi d'avoir eux-mêmes besoin d'une aide extérieure. Ce serait voler Pierre pour payer Paul. Dès ses débuts, les membres de l'Église de Jérusalem avaient fourni un effort afin de répondre aux besoins des uns et des autres. Je lis le passage. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Acte chapitre 2, les versets 44 et 45. Je continue le texte. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il avait déjà décidé, avec un très grand empressement, de se rendre lui-même chez vous. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 16 et 17. Tout comme Paul, Tite se préoccupe au plus haut point du bien-être de ceux auprès de qui il exerce un ministère. On dit que les grands esprits se rencontrent. Ce fut le cas pour ces deux serviteurs de Dieu qui eurent ce projet à cœur en même temps. Dans un monde antique qui est centré sur lui-même, il n'y a rien donc de nouveau sous le soleil. Un tel empressement est une qualité rare qui fait plaisir à voir. Je continue. Nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle. Il a, de plus, été désigné par le vote des églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprendrons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service. Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 18 à 21. Paul veut éviter tout risque d'incompréhension, surtout qu'il s'attend à réunir une somme importante. Outre sa conscience pure devant le Seigneur, il montre une rectitude rigoureuse devant les hommes, car c'est un orgueil insensé qui conduit à ne tenir aucun compte de l'opinion des autres. Le nom de celui qui accompagne Tite n'est pas donné. Mais de toute évidence, c'est quelqu'un que les églises de Macédoine tiennent en haut estime. Le vocabulaire technique que Paul utilise montre que ce délégué a été choisi selon le mode de scrutin à main levée en usage dans la démocratie de la ville d'Athènes. Ces deux hommes, plus un troisième, vont donc recueillir les dons des Corinthiens pour les porter à Jérusalem. Comme l'apôtre travaille à la gloire du Seigneur, il prend grand soin de ne rien faire qui puisse éveiller le moindre soupçon et donc nuire à sa réputation. Il veut éviter de se faire accuser d'une mauvaise gestion ou pire encore, de malhonnêteté. Paul suit la devise de Jésus qui a dit « Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes » dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Il faut en effet tenir compte du fait qu'il y a toujours des esprits tordus qui ont le doigt d'accusateur facile, et même si la personne mise en cause est blanchie, son intégrité sera ébranlée malgré tout, parce qu'un petit doute subsistera toujours chez certaines mauvaises langues. À cette époque, les gens sont pointilleux et méfiants en matière d'argent. Aujourd'hui plus que jamais, ce qui touche aux finances est un domaine particulièrement sensible. Et c'est pire dans le domaine religieux, où les racketeurs sont légions. Il est vrai que la plupart des organismes à but non lucratif, qui lèvent des sommes souvent importantes pour de bonnes causes, semblent éviter de donner trop de détails sur l'utilisation des fonds récoltés. Il existe souvent une zone d'ombre qui suscite la suspicion. Paul veut au contraire que tout soit bientôt clair et au-dessus de la table. Du début de la collecte jusqu'à la remise des fonds à l'église de Jérusalem. Je continue. Avec eux, nous envoyons encore ce troisième frère, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Nos frères, comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur au Christ. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 22 et 23. Tite est donc accompagné de deux autres personnes dont l'identité ne nous est pas révélée ici. On sait qu'ils sont dépêchés par les églises de Macédoine, dont trois sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Bérée, Thessalonique et Philippe. De plus, ces deux ambassadeurs font très certainement partie des compagnons de voyage de Paul, dont les noms nous sont donnés par Luc dans le livre des Actes des Apôtres, acte 20, verset 4. En tout cas, ces trois hommes sont des gens très recommandables, recommandés au-dessus de tout soupçon et dont la réputation d'intégrité n'est pas à faire. Leur présence a évidemment pour but de prouver que Paul ne cherche aucunement à tirer un quelconque profit de cette collecte qu'il a organisée. Je finis ce chapitre 8. Donnez-leur donc la preuve, et par eux, à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot, et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 24. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Paul prend les Corinthiens au mot et s'attend à ce qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé. Les paroles en l'air sont gratuites, mais puiser dans son porte-monnaie, ça coûte. C'est en se montrant généreux qu'ils témoigneront de façon tangible leur amour pour Paul, pour le Christ et pour les pauvres de Jérusalem. Paul exhorte ceux qui se disent croyants à avoir de la consistance, à faire suivre leurs paroles des faits. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui écrit la lettre suivante à sa petite amie. « Pour toi, je franchirai les océans les plus grands, je traverserai à la nage les plus grosses eaux des plus grands fleuves, je gravirai les montagnes les plus escarpées. Pour toi, je ramperai les déserts les plus brûlants pour te joindre. » Puis, il conclut en disant, « Si mercredi soir il ne pleut pas, je viendrai te voir. » Nous arrivons au chapitre 9 qui continue le même thème de la libéralité. Je commence à lire. Quant au secours même destiné à ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant, « En Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. » 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 1 et 2. Paul utilise un détour plein de délicatesse pour revenir au sujet de la collecte déjà traitée. L'Achaïe est la province romaine à l'extrême sud de la Grèce où se trouve Corinthe, sa capitale, ainsi que la ville d'Athènes. Paul répète qu'il veut que les Corinthiens achèvent ce qu'ils se sont engagés à faire. Enthousiastes et pleins de bonne volonté, ils ont été les premiers à vouloir participer à cette œuvre de bienfaisance. Et Paul les a cités en exemple aux Macédoniens. L'ironie de la situation est que ces derniers ont mené à terme leur engagement tandis que les Corinthiens se font tirer l'oreille. C'est un peu comme la fable de la fontaine, où a lieu une course entre le lièvre et la tortue. Le lièvre, qui a la possibilité d'arriver au but en un éclair, est trop sûr de lui et se met à traîner en route. Quand finalement il démarre, c'est trop tard. Il est battu au poteau. Le souci de Paul est qu'au minimum, les Corinthiens franchissent la ligne d'arrivée avec la collecte promise. Je continue. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point, et que réellement vous soyez prêts, comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion, pour ne pas dire à la vôtre. 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 3 et 4. Les délégués et Tite partent les premiers pour Corinthe afin de s'occuper de la collecte. L'apôtre espère bien que les nuages annonciateurs de leur libéralité vont enfin produire la pluie bienfaisante en espèces sonnantes et trébuchantes. Paul a l'intention de suivre ses trois compagnons et de se rendre sur place. Ce sera la troisième fois. Il sera accompagné des Macédoniens auprès de qui il a vanté la générosité des Corinthiens, mais d'y penser, il a peut-être quelques sueurs froides. Alors, il espère qu'à son arrivée, la collecte sera déjà entassée dans un coffre. Dans le camp contraire, lui et les Corinthiens seront dans le plus grand embarras vis-à-vis des Macédoniens, moins argentés, mais plus nobles, car ils auront tenu leurs promesses. Je me souviens que quand j'allais à la messe, quelquefois je mettais 5 centimes dans le tronc. C'est vraiment se moquer du monde, ou plus exactement, de Dieu. Et je n'en suis pas fier. Je continue. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette bénédiction que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'une bénédiction généreuse et non pénible et forcée. De Corinthiens chapitre 9, verset 5. Pour l'apôtre, collecte et bénédiction sont des mots interchangeables. Celui qui est généreux avec ses moyens financiers apporte un bienfait à ceux qui sont dans le besoin et lui-même est béni. Dans le livre des Proverbes, on lit « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. » Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, les versets 24 et 25. Paul veut que la collecte se fasse sans pression, afin que ça ne ressemble pas à de l'exploitation, ce qui ne serait pas digne de ceux qui font profession de servir le Christ. La générosité envers Dieu doit être une réponse spontanée du cœur à sa grâce. Un jour, on a demandé à quelqu'un de très riche et généreux, « Comment faites-vous pour être aussi riche alors que vous donnez la majeure partie de votre fortune à l'œuvre du Seigneur ?» Il a répondu, « C'est vrai que je distribue mon argent à l'appel, mais l'appel du Seigneur est bien plus grande que la mienne. »